Je vous présente mon ami, l'écrivain, le journaliste Philippe Lançon. Vous connaissez peut-être son histoire lors de l'attentat extrémiste à la revue. Il est l'auteur du Lambeau, cette œuvre magnifique, déchirante, intelligente, des révélations. Nous allons parler un petit peu de cela par rapport au monde de la bureaucratie religieuse, mais surtout je veux connaître la lecture que Philippe fait du procès de Kafka, parce que dans le Lambeau, il nous parlera un peu de ça, quand il attendait d'entrer dans le théâtre opératoire. Il avait avec lui un livre qu'il avait choisi, pas un roman, mais le lettre de Kafka à Milena. Donc, je te lance avec ça, Philippe, et je vais t'interrompre pour que nous puissions avoir un dialogue.
Bonsoir à tous. Voilà, je suis très honoré d'être dans cette salle où je suis venu beaucoup quand j'étais étudiant.
Vous l'entendez ? Bon, très bien.
Et je remercie évidemment Alberto de m'inviter. Je ne suis pas un spécialiste de Kafka, mais je l'ai quand même pas mal lu depuis mon adolescence, en commençant par ne rien comprendre, en particulier La Métamorphose, quand j'avais 15-16 ans. Et donc il se trouve que quand j'étais effectivement à l'hôpital en 2015, après l'attentat contre Charlie Hebdo, donc à l'hôpital de la Salpêtrière, où j'ai passé à l'époque plusieurs mois, l'un des livres que j'avais à disposition, par hasard, qui m'avait été offert par une amie très vite, c'était Les Lettres à Milena. D'ailleurs, c'est cet exemplaire-là. Il y a plusieurs versions. Donc, Kafka a écrit, on n'a pas les réponses, hein, on n'a pas les lettres de Milena, on a que les lettres de Kafka à Milena. Donc, ce qui est un exercice aussi, évidemment, assez passionnant et peut-être vain, qui consiste à essayer d'imaginer à travers les lettres de Kafka à quoi il répond ou à qui il s'adresse. Donc, je lisais ces lettres. J'avais par ailleurs La montagne magique de Thomas Mann et celui qui m'était le plus proche, qui était la recherche du temps perdu de Proust. Mais quand je descendais au bloc, opératoire, et j'y suis descendu quand même une vingtaine de fois en ces mois-là, j'avais toujours l'impression de descendre, même si c'était pour m'y réparer, vers une de ces marmites de l'enfer, et même si c'était une marmite froide. Et donc, il y a une raison concrète à laquelle, assez vite, j'avais compris qu'au bloc, dans l'antichambre du bloc, on pouvait attendre un certain temps. La patience est essentielle aux patients, comme son nom l'indique. Et l'un des aphorismes de Kafka qui a donné le titre à ce dialogue, les aphorismes de Zurao, il dit qu'il a écrit, si je me souviens bien, en 1917, ou quelque chose comme ça, quand il était chez sa sœur. Et en fait, il dit qu'il y a deux péchés capitaux. L'un, c'est l'impatience, et l'autre, c'est la négligence. Il dit que l'impatience, c'est ce qui a chassé l'homme du paradis terrestre, et que la négligence, c'est ce qui l'empêche d'y retourner. Et puis après, il ajoute, parce que toujours Kafka, corrige n'est pas le bon mot, mais entre en contradiction avec ce qu'il dit lui-même, ce qu'il écrit lui-même, et dans une concentration extrême. Et évidemment, tout de suite, il ajoute que finalement, il n'y a peut-être que l'impatience comme péché capital, qui est à la fois ce qui a chassé l'homme du paradis et qui l'a empêché d'y retourner. À quoi on pourrait entrer dans ce qu'Alberto disait, c'est-à-dire dans le commentaire et dans le désespoir du commentaire, qui consisterait, par exemple, à imaginer que la négligence n'est donc qu'un effet de l'impatience. C'est possible. Donc toujours est-il que quand j'étais au bloc, j'ai assez vite compris que l'impatience et à l'hôpital était un péché capital. dont la plupart d'entre nous, les patients, évidemment, on est des hommes, donc on n'y échappe pas. Pour essayer de tempérer ce péché, j'avais donc décidé d'amener les lettres à Milena au bloc sous mon drap, dans la mesure où ça correspondait finalement, je l'ai compris rétrospectivement, enfin, une chose que je n'ai pas comprise immédiatement, c'est qu'il y avait un aspect pratique. Je n'allais pas descendre avec un roman de la taille de La Montagne Magique ou La Recherche du Temps Perdu au bloc, sachant que je pouvais attendre 5 minutes comme une heure avant d'entrer dans le bloc, proprement dit. Donc les lettres, c'était idéal. Et par ailleurs, c'est ce que j'ai compris rétrospectivement, l'intensité propre à Kafka, et en particulier à ses lettres, correspondait finalement à l'intensité de l'expérience vécue et me permettait d'arriver, comment vous dire, d'inscrire précisément à ce moment-là, sinon dans mon corps, en tout cas dans mon esprit, une forme très particulière et très intime du destin. Et de ce point de vue-là, je vais vous dire 2 choses. La première, c'est que sur le destin, dans une lettre, la dernière lettre qu'il écrit à Felice Bauer, dont Alberto vous a parlé, donc la lettre qui finalement rompt définitivement la relation qu'il a avec elle.
Parce qu'il avait une relation on-off avec elle depuis
connu, plusieurs années.
Il y a eu 2 propositions de mariage. Enfin,
qui ont été rompues. La première, qui est la première rupture, qui est la plus spectaculaire, c'est ce qu'on appelle le tribunal de l'hôtel où il était, l'Ashkenischer Hof, où il a été littéralement traduit en justice par Felice, donc sa promise à laquelle il était fiancé. L'ami Grete Bloch, qui a lu des lettres qu'il lui avait adressées, qui était en quelque sorte l'intermédiaire, qui avait essayé de le faire en sorte que ces fiançailles soient effectives, toujours se méfier des intermédiaires, un ami à lui et les parents de Felice et Bauer. Et donc, il a très, très typiquement, Kafka se sentait évidemment absolument coupable de la manière dont, il faut bien le dire, il avait fait tourner en bourrique la pauvre Felice, et puisqu'il voulait l'épouser parce qu'il voulait se marier, avoir une vie semblable à celle de ses amis et avoir des enfants. Et en même temps, il ne le voulait pas. Donc, il ne le voulait pas comme écrivain, comme homme. Et une grande partie des lettres qu'il lui écrit, qui sont absolument à la fois sublimes et filandreuses, consistent à expliquer quel homme il est à cette femme qu'il veut épouser. Et donc, en même temps qu'il lui explique, puisqu'il veut absolument dire la vérité, il la dégoûte de l'amour qu'il lui déclare en même temps, vous voyez. Et donc, dans la dernière lettre qu'il lui écrit, et ça va nous ramener à l'antichambre du bloc, il lui dit cette chose magnifique. Il reprend une phrase, commence par citer un ami, Max Brod, qui lui a dit que tu es heureux dans ton malheur. Et voilà ce qu'il écrit, comment il commande ça auprès de Felice. Être heureux dans le malheur, ce qui veut dire en même temps être malheureux dans le bonheur, c'est peut-être l'arrêt qu'on a prononcé lorsque le signe fut imprimé sur le front de Caïn. Cela signifie qu'on ne marche plus du même pas que le monde. Cela signifie que celui qui porte ce signe a mis le monde en morceaux et qu'incapable de le relever en le gardant vivant, il est pourchassé à travers les ruines. Malheureux, certes, il ne l'est pas, car le malheur est une affaire de la vie. Et la vie, il l'a supprimée, mais il la voit avec un regard extra-lucide, ce qui, dans cette sphère, est l'analogue du malheur. Cette dernière phrase, donc, de ce passage, absolument, enfin, c'est une lettre très connue et tout à fait remarquable, c'est à peu près ce que j'ai pu ressentir en lisant certaines des lettres à Milena quand j'étais au bloc, c'est-à-dire exactement ça, cette sphère dans laquelle on voit avec un regard extra-lucide ce qui est l'analogue du malheur. Donc il y a une sorte de renversement. Vous voyez, c'est comme si on regardait la vie dans un miroir qui devient un négatif de la vie, et le malheur devient à ce moment-là, effectivement, c'est pour ça qu'il renverse la formule, l'envers du bonheur, mais d'un bonheur qui, de toute façon, est inexistant, et qui, en tout cas, pour Kafka, l'était.
Tu disais qu'on parlait de cette relation bizarre avec Félix, que par exemple, il remarque qu'elle a des dents en or et il ne se gêne pas de lui dire qu'il déteste ça. Et
ah oui, oui, il est, ça c'est vraiment Kafka, parce que il est vrai que chez Kafka, le scrupule absolu, si on reprend les deux péchés, l'impatience et la négligence, bien entendu, en tant qu'homme, il s'en accuse perpétuellement. Et en même temps, si on parle de la négligence, je ne crois pas qu'il ait existé sur Terre d'homme aussi scrupuleux et aussi peu négligent que Kafka. Et de ce point de vue-là, je reviendrai après à ça, vous raconter une anecdote. Dans sa brève histoire avec Milena, en 1920, ils se rencontrent à un moment donné, il y a une sorte de lune de miel, probablement non consommée, qui dure 4 jours, et très vite quand même, il exaspère Milena précisément par son excès de scrupules qui peut, pour un esprit qui ne connaîtrait pas Kafka, ressembler à de la mesquinerie. Exemple, il croise dans la rue avec Milena une mendiante, et il décide de lui donner une couronne. Mais une couronne, c'était très peu d'argent à cette époque-là. Mais enfin, c'était quand même une somme. Enfin. Et il n'a eu qu'une pièce de 2 couronnes. Alors, il est très embarrassé parce qu'il se penche vers la mendiante et il lui demande la monnaie. Exaspération de Milena. Et vous voyez, on rit parce que c'est drôle, et Kafka, c'est drôle. Mais c'est tragique parce que pour Kafka, ce n'est pas drôle. C'est-à-dire que pour lui, c'est très sérieux, ce n'est pas du tout mesquin. C'est une question d'ordre des choses. Il a pris cette décision, et la décision, c'est de lui donner une couronne. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Alors il s'éloigne sans rien lui donner du tout, et puis il va faire la monnaie, par exemple chez le boulanger. Et puis il revient, et il lui donne une couronne, donc il rentre dans l'ordre, littéralement. Et à ce moment-là, on voit aussi que lui-même est un bureaucrate.
Oui.
Et qu'il l'est. C'est ça qui est formidable et tragique chez Kafka, c'est que sa bureaucratie est une expérience métaphysique. En permanence, pour tout. C'est aussi pour ça que quand on le lit, tout est finalement à la fois très, très abstrait et très concret. Et une idée que beaucoup ont développée, c'est d'imaginer qu'aurait-il écrit s'il avait continué à vivre, si la tuberculose ne l'avait pas tué. Et en tout cas, dans la période que c'est de l'humour noir, mais correspondu entre la fin de sa tuberculose, s'il en était sorti, et l'arrivée des nazis au pouvoir, qui aurait sans doute achevé son expérience à moins d'un exil.
Il y a tellement d'exemples, excuse-moi de t'interrompre parce que je veux que tu continues après, mais pour t'arrêter sur ce que tu avais dit sur cette scrupulosité qui vient de cette bureaucratie intérieure. Sa sœur l'accuse, quand il écrit La Métamorphose, d'avoir campé le roman dans leur maison, dans leur appartement. Il dit, mais tout correspond, la cuisine, la salle, la chambre. Il dit, mais pas du tout. Le père, dans La Métamorphose, habite une chambre, mais si c'était la chambre de notre appartement, père habiterait les chiottes. C'est le détail. C'est le détail qui change tout. Et après, quand il était avec sa sœur et son petit-neveu, et comme tu l'as dit, il voulait toujours avoir deux idées qui se complémentent, qui dialoguent dans la même phrase.
Donc son petit, se contredisent. Hein.
Qui se contredisent.
C'est une des spécificités, pour moi en tout cas, de cet écrivain, c'est d'arriver à non seulement à un univers, mais à une langue.
Et donc,
qui concentre des choses qui les rendent souvent très obscures à la plupart d'entre nous. Parce qu'on n'arrive pas à penser la chose et son contraire à l'intérieur d'une même phrase. Et lui, il y parvient. Mais simplement, il est difficile parfois de le suivre. Mais par contre, ce que j'avais justement compris À ce moment-là, quand j'étais dans l'avant-bloc, c'était que je devais me laisser porter par cette connaissance que je n'arrivais pas à atteindre, qui était la sienne. Ce que j'ai écrit d'ailleurs dans Le Lambeau, c'est qu'à ce moment-là, malheureusement ça a disparu depuis, ça m'avait rendu extraordinairement humble. Non seulement évidemment vis-à-vis du texte de Kafka, mais d'une manière générale vis-à-vis de l'expérience que j'étais en train de vivre et qui aurait pu très facilement me donner comme un surplomb ou une sorte de statut de grand blessé, ce que j'étais. Mais véritablement, je peux dire que Kafka, à travers ces quelques lettres à Milena, m'a permis d'en rabattre. Et justement, j'en reviens à la deuxième raison. C'est que j'ai compris après, c'est que j'ouvrais au hasard les lettres quand j'étais en bas. Et à chaque fois, évidemment, je tombais sur une sorte de, non pas de révélation, mais de chemin qui m'amenait vers un endroit, comme toujours avec Kafka, que je n'avais pu imaginer, qui est toujours très très surprenant. Précisément parce qu'il y a cette toile d'araignée très forte du scrupule liée à un sens de la description de l'état dans lequel il est, extrêmement concret. Et plus tard, en lisant le procès, en le relisant plutôt, j'ai trouvé cette phrase qui, pour moi, résume le sens de pourquoi j'ouvrais les lettres au hasard. Alors voilà, c'est... le moment où K, donc le personnage du procès, a été une première fois, pour ceux qui l'ont lu, ils s'en souviennent, il cherche la salle pour la salle d'instruction. Et il se retrouve dans une espèce de banlieue, dans un immeuble qui est un immeuble d'habitation, qu'on pourrait dire une HLM, quoi, en fait. Hein. Mmh. Et il cherche une salle, la salle du juge d'instruction, qu'il ne trouve pas. Donc il demande aux gens, et puis on le conduit, et puis enfin, tout ça. Et là, il y a vraiment un aspect extrêmement burlesque, et en même temps, effectivement, on s'enlise.
Et des cauchemars.
Et de cauchemars, et on s'enlise, et on s'enlise, et on s'enlise. Et puis finalement, il arrive dans cette salle où il y a un monde fou, et où il se passe tout un tas de choses, et où là, pour la première fois, il proteste, et il déclare sa détestation de la bureaucratie, de l'absurdité. Il dit une chose très vraie, que toute cette bureaucratie absurde, débouche inévitablement sur la corruption. Et ça, tous ceux qui connaissent des pays bureaucratiques et non démocratiques savent à quel point cette équation est juste. Et alors, il y retourne donc, je crois on lui a dit de revenir le dimanche, alors il revient le dimanche, un dimanche. Là, évidemment, quand il se retrouve au même endroit, il n'a pas de convocation, il n'a rien du tout. Il ne retrouve pas du tout les lieux. Alors il cherche, et puis alors il dit ça, et il prend un escalier au hasard, et puis il dit « Le tribunal était attiré par la faute, d'où il résultait à proprement parler que la salle d'instruction ne pouvait manquer de donner sur l'escalier que K choisissait au hasard. Le tribunal était attiré par la faute. » Et ça, alors c'est une phrase qu'on peut méditer bien longtemps. Et que, pour ce qui me concerne, j'avais assimilé, comme on assimile un sucre ou un produit, la sensation très forte, et qui ne m'a jamais quitté depuis, que j'étais coupable. Non pas d'avoir écrit dans Charlie Hebdo, d'ailleurs moi j'écrivais pas du tout sur la religion ou quoi que ce soit, non, c'était pas ça dont j'étais coupable. J'étais coupable... de me retrouver dans une situation que j'étais incapable de comprendre, de sentir, de vivre et de comprendre. Et c'était une faute. Et la faute, en ce temps-là, était, comment vous dire, légèrement atténuée par le fait que, évidemment, toute l'équipe médicale à ce moment-là était à mon service de patient. Mais très vite, et par la suite, elle a cru de nouveau, et actuellement, je peux vous dire qu'elle est même à son sommet, ce sentiment de la faute et de la culpabilité, parce que très vite, l'administration a pris le dessus. C'est-à-dire le fait qu'en permanence, quand vous êtes en droit d'avoir, ou vous croyez être en droit d'avoir un certain nombre de choses à demander, de réparations, etc., tout passe par la bureaucratie, la preuve. Et plus la victime est faible, plus cette bureaucratie l'écrase. Et ça, c'est évidemment vrai dans une dictature. Là, la dictature est presque une démonstration, burlesque et atroce de ça. Mais c'est vrai aussi dans une démocratie comme la nôtre. C'est absolument vrai. C'est-à-dire que la bureaucratie ne tient absolument pas compte de l'état de celui à qui elle s'adresse, mais absolument pas. Et du coup, l'expérience de sa victime devient une expérience métaphysique. Et à ce moment-là, de nouveau, je trouve que Kafka renvoie la victime à sa condition et à son humilité. D'une certaine façon, interdit la plainte. Ce qui est cruel. C'est quelque chose qui est vraiment une des choses qui, pour moi, a été essentielle dans ces lettres à Milena. Donc, encore une fois, qu'il a écrite en très peu de temps, puisque c'est quelques mois, c'est vraiment un peu le bouquet final de sa grande correspondance avec diverses personnes, et en particulier les femmes. Et très vite, avec Milena, comme le savent beaucoup, certains d'entre vous sans doute, les choses ont mal tourné, puisque les 4 premiers jours dont je vous ai parlé ont été, semble-t-il, idylliques. Et puis quand il l'a revue, ça a été une catastrophe. Donc, et à partir de là, les lettres changent de nature, mais de ton. C'est-à-dire que cette chose qui est si fondamentale, et en particulier avec quelqu'un comme Kafka, qui est l'entente à demi-mot, vous voyez, commence à fondre.
Restons un instant dans ton cas particulier, si tu veux, et après on va revenir à Kafka. Il y a une question qui ne se pose jamais, curieusement, dans le procès, comme il ne se pose pas dans le livre de Job. Pourquoi moi ? Est-ce que tu t'es posé cette question ?
Oui, bien sûr, je me la suis posée. Et très vite, encore une fois, avec l'aide de Kafka, en réalité, j'ai compris qu'elle n'avait pas de sens. C'est-à-dire, il y a quelque chose, ça peut paraître, qu'il faut accepter. Voyez ? Et ça, je trouve que chez Kafka, alors lui, c'est évidemment très différent, mais si on prend par exemple son histoire avec Felice Bauer, très vite, ce qu'il veut, comme je vous l'ai dit, il veut l'épouser, et voilà. Mais d'un autre côté, il comprend que, vu ce qu'il est, non seulement lui-même doit accepter qu'il ne l'épousera pas et que finalement, il est condamné à la solitude, mais toute une partie de ses lettres sont une sorte de maïeutique désespérée et désespérante pour la conduire, elle, à accepter qu'elle ne peut accepter. Donc, quand le procès arrive, le fameux jour, le 14 juillet 1914, donc très peu de temps à la déclaration de guerre, de toute façon, ce procès arrive comme une chose absolument naturelle, et on sait qu'il est resté, semble-t-il, la bouche fermée face aux accusations légitimes qui étaient portées contre lui, et donc, parce qu'il n'y avait rien à dire, sinon accepter. Alors là, je peux citer une autre lettre où il est parmi. Il y a énormément de lettres à Felice, donc il revient et revient en permanence là-dessus. Là, c'est une lettre du 16 septembre 2013, et il lui dit ça. L'obstacle n'est pas que je devrais renoncer à trop de choses personnelles en l'épousant, encore que ce soit juste en un certain sens restreint, c'est bien plutôt que je suis couché tout de mon long par terre, comme un animal sur lequel ni les exhortations, ni les efforts de persuasion n'ont de prise, bien que je ne puisse me soustraire entièrement ni aux uns ni aux autres, et spécialement pas à ces derniers. C'est-à-dire les efforts de persuasion sous-entendus de Felice et de sa famille pour la persuader qu'il faut, et de Grete Bloch, qu'il faut et qu'il doit l'épouser. Mais je ne peux pas me faire avancer, je suis comme pris dans les filets. Si je me pousse en avant, je suis rejeté plus fort en arrière. Donc, si je me pousse en avant, je suis rejeté plus fort en arrière. Donc, en fait, on comprend que dans ce double mouvement, la seule position finale est celle de l'immobilité, qui d'ailleurs était la mienne à ce moment-là, et du mutisme, qui d'ailleurs était aussi le mien à ce moment-là. Donc, c'est, vous voyez, c'est, on ne peut pas... Alors, évidemment, là, dans cette immobilité et ce mutisme, la seule chose qui, effectivement, en vérité, compte pour Kafka, sa grâce négative, c'est la littérature. Et ça aussi, il l'écrit très clairement. C'est-à-dire que, là, vous voyez, c'est-à-dire qu'il est allongé tout de mon long comme un animal. C'est ça, comme un animal voué à écrire, hein, comme celui qui est allongé dans la machine de la colonie pénitentiaire.
Et aussi ce que tu dis de l'obstacle, il y a deux citations à propos de l'obstacle de Kafka. Un des aphorismes dit que la voix est une corde tendue sur laquelle nous devons marcher, mais elle n'est pas tendue en mi-air, elle est tendue par terre pour nous faire trébucher. Ça, c'est une. Et l'autre, il avait appris que Balzac avait un bâton sur lequel, une canne sur laquelle Balzac avait écrit « J'écrase tout obstacle ».
Ah ouais.
Et Kafka a dit « Ah ben si j'aurais une canne, je mettrais tout obstacle m'écrase
ouais. ». Oui, ça c'est assez juste parce que... Alors d'ailleurs, j'avais aussi une des autres phrases qu'il écrit à Féliché. Mettez-vous à la place de Féliché qui reçoit, donc elle attend la, le mariage. Hein. C'est un grand séducteur, je n'aime pas tes dents. Il dit même qu'il est répugné par tous les problèmes de dents. Donc elle avait des problèmes de dents, puisqu'elle avait donc ces déclarations d'amour un peu particulières. Et il lui dit cette phrase absolument magnifique, mais qui n'est peut-être pas envoyée à la personne... La volupté de renoncer pour la littérature au plus grand bonheur humain, t'épouser, me traverse irrésistiblement tous les muscles, je ne peux pas me libérer. Donc, vous voyez, c'est... Et alors, mais en même temps, donc, vous comprenez, cette volupté de renoncer pour la littérature, c'est une volupté sombre. Et d'ailleurs, il y a plusieurs périodes de sa vie, comme vous le savez sans doute, il a cessé d'écrire. Et là, on peut comparer, par exemple, par curiosité, j'ai cherché aussi ce que Proust, dans sa réclusion, lui-même étant malade, donc au moment où il écrit la recherche, pouvait écrire dans ses lettres. Il en a écrit aussi de multiples sur la question. Et par exemple, à un moment donné, là, pas dans une lettre, mais à une réponse qu'il fait en 1913 à un journal qui s'appelle Le Miroir, où on lui demande le sens de sa réclusion, et il dit ça. Mais cette réclusion, je la crois profondément profitable à mon œuvre. L'ombre, le silence et la solitude, en abattant sur moi leurs charges épaisses, m'ont obligé de recréer en moi toutes les lumières et les musiques et les frémissements de la nature et du monde. Mon être spirituel ne se heurte plus aux barrières du visible et rien n'entrave sa liberté. C'est exactement l'opposé de la perception qu'a Kafka de son destin d'homme voué à la littérature. Il dit sans cesse que tout le renvoie à lui-même, comme à une prison, finalement. Tandis que Proust, lui, dit que la prison dans laquelle il est, précisément, le permet d'échapper et de s'ouvrir. On ne peut pas imaginer des antithèses plus nettes.
Tout à fait.
Ce qui est intéressant, c'est que tout ça est vécu et écrit au même moment. En l'occurrence, en 1913.
Et comme tu dis, confiné par des maladies similaires, maladies de la parole, Proust avec son asthme et Kafka avec sa tuberculose, maladie des poumons, donc des voies respiratoires. Mais tu avais repéré quatre écrivains qui comptaient pour Kafka et qui avait certaines particularités. Veux-tu nous parler de ces quatre écrivains ?
Enfin, sauf qu'il y en a un que je ne connais vraiment, que je n'ai jamais lu. Donc, à un moment donné, donc toujours, il faut toujours citer les choses dans le contexte. Et le contexte, c'est encore une lettre à Felice, où justement, dans la lignée de ce que je viens de vous citer, il lui explique en fait de quel écrivain il se sent proche, et il dit des quatre, aucun ne s'est jamais marié, sauf un, Dostoïevski. Mais ça n'a pas été absolument brillant.
Non.
Donc il dit Dostoïevski qui lisait beaucoup à cette époque-là. Ça a sans doute été étudié à l'université ou ailleurs, mais quand on lit en particulier le passage dont Alberto a pensé dans le procès à la fin, dans la cathédrale, je trouve qu'il est difficile de ne pas penser au grand inquisiteur, ouais. Même si les choses sont très très différentes. Et donc, pour le reste, il cite donc Dostoïevski, évidemment Flaubert. Donc, il est dit, il a aussi, on pourrait faire une sorte de parallèle avec les lettres à Louise Collet. Viens, je t'attends, mais surtout, reste à part, ne me rejoins pas. J'ai des choses à écrire. Sauf que il y a vraiment une dimension tragique. Supérieur chez Kafka,
ah oui.
Qui ne jamais.
Parce que comme tu l'as dit, chez Flaubert, c'est deux lettres séparément. Chez Kafka, c'est dans la même phrase.
Oui, c'est pareil. C'est vraiment un pack. Voilà. Alors le deuxième, donc Dostoïevski, Flaubert. Le troisième, c'est Kleist, donc qui s'est suicidé effectivement avec la femme qu'il aimait, mais donc on peut effectivement ça. Et il dit, si je me souviens bien, il dit que Kleist c'est peut-être celui qui s'est approché le plus près de la vérité. Donc,
Grillparzer, c'est le.
Et Grillparzer.
Oui, que tu n'as pas lu. Je ne sais pas à quoi ça correspond la mentalité de Grillparzer.
Ou qui était un dramaturge, si je me souviens bien.
Oui, mais bon. Kafka trouvait ses liens dans ses lectures et il faisait tout seul son résumé dans sa bibliothèque intérieure.
Et donc, en fait, alors, ce qui est, pour revenir aux lettres à Felice Bauer, évidemment, ce qui est le vase communicant avec le procès, qu'il a commencé à écrire juste après la rupture, a été aussi beaucoup analysé. Le livre le plus, je vais amener si jamais certains, qui est vraiment très remarquable, hein, c'est celui-ci, L'autre procès de Elias Canetti, qui est un livre absolument limpide,
ouais.
Qui est à mon avis très, vraiment remarquable, et qui montre comment, selon Canetti, le procès, le roman, est une
sorte de traduction.
Une traduction et une reconstruction imaginaire,
ouais.
Et un développement du procès qu'il avait subi le 14 juillet 1914. Donc évidemment, tout ça est toujours, doit être toujours, comment vous dire, nuancé, plus que nuancé, par le fait que si tout écrivain, et en particulier Kafka, s'appuie et transcrit ses expériences littéralement sur la machine de la colonie pénitentiaire, la transcription échappe absolument à ce qu'il a inspiré, part tout à fait vers autre chose. Mais quand même, Canetti apporte des éléments qui sont tout à fait intéressants, et il montre assez bien que, comment vous dire, il y a chez Kafka, donc dans ce processus de contradiction permanente, je t'aime, je veux t'épouser et je ne t'épouserai pas parce que je dois écrire et parce que la solitude est mon destin, pour le dire de manière assez triviale. Il y a aussi finalement tous les personnages qu'il a inventés, non seulement le cas du procès, mais plus tard celui du château. C'est-à-dire des personnages qui sont toujours dans l'attente et aussi dans la procrastination, dans quelque chose, une expérience violemment dilatoire, qui fait que, pour ce qui me concerne, par exemple, je n'ai jamais pu finir de lire Le Château. Littéralement, c'est un livre qui finit par m'écœurer. Je m'enlise.
Qui ne finit pas.
Et qui ne finit, en plus, qui ne finit
le
pas.
Le livre est
mais
incomplète.
Je pense que, de toute façon, la non-finition des romans de Kafka fait partie des romans de Kafka.
Exactement.
Donc, et je trouve que pour le lecteur, alors là, pour le coup, je n'ai pas de culpabilité à ne pas l'avoir fini. C'est-à-dire, peut-être un jour le finirai-je, vous voyez, mais la saturation existentielle que provoque en moi ce roman, le fait de me sentir enfermé d'abord dans un cauchemar, puis dans une espèce de pâte grise dans laquelle je ne peux plus sortir, fait qu'à un moment donné, je suis obligé d'en sortir, comme d'un cauchemar. Je dirais, un cauchemar, on s'en réveille. Un récit de Kafka, c'est comme si on ne s'en réveillait pas.
Tu es le lecteur idéal de Kafka, parce que Kafka voulait exactement ça. La métamorphose commence par un effort de se réveiller de ce cauchemar. Il ne peut pas s'en sortir. Le château ou America sont des voyages qui ne peuvent pas finir parce que c'est justement dans l'impossibilité de finir que la raison du roman se trouve. Donc tu le suis, mais jusqu'à un certain point, parce que Kafka ne veut pas ou sait qu'on ne peut pas aller au-delà, et si le roman s'était arrêté au deuxième chapitre, ça serait la même chose. Donc tu peux t'arrêter où tu veux, parce qu'il n'y a pas de fin.
On est toujours certain de finir, je trouve, en tant que lecteur, comme lui, c'est-à-dire allongé par terre au bord de... dans la boue, finalement, dans une boue grise, quel que soit le chapitre auquel on s'arrête, vous voyez. Et évidemment, pour moi, ça a des résonances très particulières dans la mesure où le sens des opérations multiples et qui ne sont pas finies, auxquelles que j'ai eu à subir, mais subir n'est pas le mot, puisque c'est quelque chose que j'ai voulu, que j'ai accompagné, et pour lequel je me bats. Comme me disait la chirurgienne qui présidait à tout ça et qui continue, l'idée est de se rapprocher, non pas du château, mais du visage perdu. Et quand il s'agit du visage, en fait, il ne s'agit pas du tout. Il s'agit entre autres d'une expérience esthétique, mais elle est presque secondaire. Ça devient très vite... une expérience d'abord physique, puisque les sensations sont totalement différentes de celles qu'elles étaient avant. Et donc, finalement, à la fin, une expérience de l'âme. Ça, je le pense, je le vis comme ça, en tout cas. Et donc, bien entendu, cette reconstruction progressive qui est censée m'amener vers le visage initial est sans fin, puisque ça n'arrivera pas. Oui. Et donc, à un moment donné, il faudra que j'arrête. Et sans doute, j'arrêterai comme j'arrête de lire le château, par saturation et par fatigue. Vous voyez ? Tant que la volonté, une certaine volonté est là, on peut continuer à avancer vers le château, et avec une sorte de traîne comme un petit prince, un manteau de commentaires sur tout ce qui vous arrive, etc., etc. Et puis plus le temps passe, plus comme les personnages, on s'enlise là-dedans, on ralentit à l'intérieur de l'existence. L'existence finit par vous ralentir. Et les personnages de Kafka, les différents cas, ont toujours des procédures, parce que c'est toujours d'ordre procédural, pour essayer de surmonter cet enlisement, et cet enlisement bureaucratique, mais encore, donc, comme vous avez bien compris, qui est une bureaucratie avant tout intérieure. Et c'est en ça que Kafka était, j'aime pas du tout le mot de visionnaire, mais est allé plus loin que les autres et plus vite. C'est que
il
précisément, la bureaucratie de cet homme qui s'occupait d'assurance, comme l'a dit Alberto, donc était habitué à avoir des blessés. Hein. Et ça, je peux vous en dire quelque chose. C'est-à-dire, quand il s'agit de réparer, d'assurer, et puis d'évaluer les dégâts, tout est question de paperasse et de chiffres. Oui. Ça n'est que ça. Donc ça devient littéralement absurde et presque obscène y compris pour celui ou celle qui en est victime. Vous voyez, cette espèce de bureaucratie tatillonne à laquelle on ne peut pas échapper. Et donc ça, dans le cas de Kafka, comme il le vivait depuis l'histoire de la mendiante que je vous racontais, jusqu'à sa tuberculose, dont il dit finalement que la maladie, cette maladie le protège. Hein. Elle lui permet d'échapper, ça c'est Canetti qui le dit assez drôlement, finalement, à quoi ? À sa famille, aux femmes, et à son travail dans les assurances. C'est finalement la tuberculose a été sa procédure d'évasion, la maladie. Mais, comme toujours avec Kafka, c'est pas mais d'ailleurs, c'est quelque chose qui est à l'intérieur même de l'affirmation première. C'est évidemment, encore une fois, une grâce négative. C'est-à-dire que, comme il est coupable, ce qui devrait servir à l'évasion n'est qu'une illusion supplémentaire. Oui. Hein? Comme il disait dans une lettre à Milena, derrière une marmite de l'enfer, il y en a une autre, et puis il y en a une autre, et puis il y en a une autre. On ne fait que passer de marmite en marmite. Donc,
un des meilleurs lecteurs de Kafka que je connais est un poète, une Argentine, Alejandra Pizarnik, qui a écrit un tout court poème qui résume un peu pour moi cette idée de Kafka que tu as décrit. Le poème dit « C'est toujours l'autre côté du fleuve. Si l'âme demande « Est-ce qu'on est arrivé ?» on lui répondra « De l'autre côté du fleuve, pas celui-ci, mais celui-là. » Kafka répétait souvent avec Max Brod l'histoire de Moïse à qui est promis cette terre promise et avec l'obligation de mourir avant de l'atteindre. Donc oui, la terre est promise, elle est là, tu vas la voir à l'horizon, mais tu ne vas pas l'atteindre. C'est le personnage du château, c'est oui. Le personnage d'Amérique. Quand as-tu commencé à lire Kafka ? À quel âge ?
Oh, j'ai commencé à, comme je disais au début, c'est anecdotique et presque prétentieux, je crois que j'avais 16 ans, quelque chose comme ça, et j'ai lu la Métamorphose dans l'édition de poche, la traduction d'Alexandre Bialat.
Oui, excellente.
J'ai lu ça, comme je le dis, avec effroi et incompréhension. Et je me souviens qu'à cette époque-là, j'étais un jeune homme assez solitaire et donc j'avais lu des choses comme le journal de Gide, etc. Et donc j'en étais venu à l'idée que dans cette solitude, la seule manière d'échapper, c'était d'écrire à des personnes que j'admirais, peut-être pour les voir, mais en tout cas leur écrire. Vous voyez, comme on jette des bouteilles à la mer, littéralement. Et la première personne à qui j'ai écrit, c'est Raymond Aron.
Et donc, tu l'as rencontré ?
Oui, il m'a reçu. Il avait son bureau, c'était à l'Express à ce moment-là. Il était éditorialiste à l'Express. C'est comme ça d'ailleurs que j'avais commencé à le lire, parce que mes parents étaient abonnés à l'Express, qui était un journal à cette époque-là, donc dans les années 70, début des années 80, tout à fait remarquable. Et je lui ai écrit sur la métamorphose. Et je me souviens très bien de quand je lui ai dit, mais c'est à la fois horrible et je ne comprends rien. Et il m'a dit, mais c'est normal, vous êtes beaucoup trop jeune pour comprendre ce qui est un pur cauchemar. Donc il m'a fait tout un développement sur le cauchemar qui était la métamorphose. Et ensuite, je me souviens très, ça c'est anecdotique, mais la deuxième chose dont il m'a parlé, parce que l'autre livre que j'avais lu à ce moment-là, mais alors là que j'avais arrêté parce que j'avais beaucoup plus de mal encore à le comprendre, c'était La nausée de Sartre. Ah ouais. Et là je me souviens très bien que là il était presque indigné que j'ai pu à mon âge, il m'a dit mais vous êtes beaucoup trop jeune. Et là j'ai compris une chose pour cette époque-là, Aron c'était l'anti-Sartre, donc certes, mon petit camarade, quand ils avaient été à l'école normale supérieure ensemble, etc. Mais là, le temps avait passé. C'était vraiment les perçus dans l'imaginaire symbolique et politique comme les frères ennemis. Et là, ce dont je me souviens, c'est qu'il m'a parlé de la nausée et de Sartre avec une admiration formidable. Donc une grande, grande admiration qui m'a beaucoup marqué. Donc c'est là que j'ai commencé à lire, j'ai lu La Métamorphose, et puis après j'ai lu Le Procès, et puis après des nouvelles, dont La Colonie pénitentiaire à ce moment-là. Et puis je me suis, comme je vous le disais, enlisé dans le château. Et après, je n'y suis pas revenu pendant de très, très longtemps. Donc,
jusqu'aux lettres.
Et il m'est arrivé épisodiquement de lire des choses, mais finalement, l'expérience qui m'a reconduit vers Kafka, et encore une fois, le hasard, le tribunal est attiré par la faute, c'est les lettres à Milena. À partir de là, c'est comme toujours quand on lit un auteur, et c'est le cas pour, je pense, la plupart d'entre vous, l'histoire du terrier d'Alice. On rentre dedans, et puis par une porte, on rentre par le terrier, puis après, ça ouvre sur tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'univers de l'écrivain, et c'est comme ça qu'on le suit.
Et, tu es revenu à La Métamorphose ?
Non, je ne l'ai pas encore relu.
Tu sais, je ne suis pas d'accord avec Aaron. C'est un livre fait, écrit pour un adolescent, parce que les adolescents éprouvent la métamorphose dans leur corps, dans leur tête. Nabokov, en parlant de la métamorphose, parle du fait que Grégor se voit converti dans cet insecte, et Nabokov soupçonne que c'est un cafard ailé, donc qui a des ailes sous la carapace. Et il dit cette chose belle, qu'il y a beaucoup des Jeanne, des gens qui sont comme Grégor et qui ne savent pas que sous la carapace, ils ont des ailes et ils peuvent s'envoler.
Oui, oui, mais c'est bien sûr. Oui, c'est... Non, mais je pense qu'effectivement, bien expliqué, c'est un livre qui peut toucher énormément les adolescents. Donc, mais je vais le relire, même si je ne suis plus tout à fait un adolescent. Mais en même temps, j'ai subi, malgré moi, une certaine mue. Et voilà, c'est... Alors, il y a une chose aussi dont je voudrais parler, qui est le...
Parle au microphone.
Oui, ce qui est intéressant, c'est le... Je vous disais, donc, il commence à écrire Le Procès, et après la rupture avec Caliché, et la Première Guerre mondiale approche. Comme vous savez, le jour de la déclaration de guerre... Il y a cette phrase qui est peut-être une des plus célèbres de Kafka, déclaration de guerre de l'Allemagne, après-midi, piscine. Et là, j'ai retrouvé chez Canetti quelque chose qui est intéressant. C'est la question qui nous ramène à cette idée que la bureaucratie intérieure de Kafka est en permanente communication avec la bureaucratie extérieure et permet donc en quelque sorte, par l'intérieur de l'explorer et aussi de la prévoir de manière presque inconsciente. Et Canetti dit ceci, il dit « Quiconque s'imagine avoir le pouvoir de séparer sa vie intérieure de la vie extérieure n'a aucune vie intérieure de laquelle il pourrait avoir quelque chose à séparer. » Alors ça, c'est déjà assez drôle et ça me paraît profondément juste. Et là, il dit cette chose... vraiment, à mon avis, très forte et qui résume assez bien l'une des caractéristiques du génie de Kafka. Dès le commencement, Kafka s'est rangé aux côtés des humiliés. Beaucoup d'autres l'ont fait qui, pour obtenir des résultats, se sont alliés entre eux. Donc, par exemple, politiquement. Le sentiment de force que leur a donné cette alliance leur a masqué très vite l'expérience brûlante de l'humiliation dont on ne prévoit pas la fin, car elle se poursuit journellement et à tout instant. Kafka isole chacune de ses expériences d'autres du même genre, mais aussi de celles d'autres gens. Il ne lui a pas été accordé de s'en détacher par l'intérêt et la communication. Il veille dessus avec une sorte d'opiniâtreté, comme si elles étaient son bien le plus précieux. On pourrait considérer cette opiniâtreté comme l'expression la plus puissante de son talent. » Voilà, je pense que on pourrait longtemps réfléchir à ces phrases de Canetti sur l'opiniâtreté en désespoir, en quelque sorte, en désespoir de cause de Kafka. C'est-à-dire qu'il, voilà, je ne peux pas mieux dire, je ne vais pas faire la paraphrase de ces phrases-là.
C'est des conclusions que Kafka lui-même tire de cette bureaucratie qu'il voit ancrée dans la société, dans lui-même, dans tout ce que nous avons parlé. Mais je voulais te poser une question quant à la bureaucratie. Tu as sûrement longuement réfléchi à l'extrémisme religieux. Est-ce que tu pourrais faire un commentaire au sujet de la relation de l'extrémisme religieux et la bureaucratie de cet extrémisme, une bureaucratie que j'appellerais religieuse dans le pire des sens?
Finalement, j'y ai pas tant réfléchi que ça, mais ce qu'il me semble, en tout cas, c'est que à partir du moment où une foi est dévoyée par une attention folle à la lettre, inévitablement, une bureaucratie violente se met en place. Parce que c'est un des fondements de la bureaucratie, d'appliquer la lettre des textes, au point où, comme tu le disais tout à l'heure, il n'y a plus de pourquoi. Là, c'est effectivement pas la rose qui fleurit sans pourquoi, c'est la lettre.
Oui.
Et donc, elle est inscrite, et de ce point de vue-là, la colonie pénitentiaire est effectivement un merveilleux outil de compréhension, en dehors du fait que c'est un récit très drôle, hein, quand même. Atroce, mais très drôle. Et on voit bien que parce que qu'est-ce qui se passe dans la colonie pénitentiaire? C'est que, donc, Alberto vous a expliqué l'inscription par les aiguilles dans le corps, mais progressivement, les aiguilles s'enfoncent de plus en plus, jusqu'à déchiqueter le coupable, qui finit en lambeaux, littéralement, d'où il y a quand même une dernière couche sous le lit sur lequel il est allongé, c'est une fosse qui récupère le sang. Oui. Ça inscrit effectivement la lettre de la sentence, en quelque sorte. La chute de l'histoire, c'est que donc... cette machine ne fonctionne plus, puisque quand l'officier qui en a la charge depuis un temps plus ou moins considérable, qu'on ignore, décide lui-même de s'installer sur la machine, de s'immoler sur sa machine, parce qu'il comprend que finalement elle n'est plus en état de grâce auprès du pouvoir, qu'elle est obsolète, et que donc lui-même, qui était chargé de veiller sur elle et sur l'exécution des sentences, est obsolète. Donc il s'inscrit pour que la sentence s'inscrive sur son propre corps. Sauf que là, la machine se détraque complètement, rien ne marche. Et en fait, tout part en... Voilà. Et donc on comprend aussi à ce moment-là le sens de l'absence de pourquoi. C'est-à-dire que la bureaucratie propre à la foi et l'officier de la colonie pénitentiaire a une foi.
Oui, oui.
C'est un bon exécutant de la foi en l'occurrence, on peut imaginer l'Empire austro-hongrois, mais devenu une dictature démente, quoi. Enfin, vous voyez. Et donc, quand il n'y a plus que ça, on ne peut de toute façon se raccrocher qu'à la lettre qui perd tout sens. En dehors de sa propre propagation. Parce que dès lors que le sens s'y introduit, ou l'historicité, c'est-à-dire cette machine a eu son usage dans un certain régime et elle devient obsolète, à ce moment-là, la machine tombe en lambeaux, comme les gens qu'elle détruisait. Donc le seul moyen pour que ça continue, c'est effectivement de ne surtout jamais se poser aucune autre question que la question technique de l'application de la lettre. Oui. D'où, dans la colonie pénitentiaire, la description, non pas interminable, mais très longue, Et ici, on voit que Kafka, encore une fois, était inspecteur des assurances. C'est-à-dire qu'il savait ce que ça signifiait d'écrire un accident, des plaies, etc., etc. Donc là, c'est pareil, il faut décrire la machine et décrire le processus. Et c'est à ça que l'officier s'attache. Et il en est très fier, bien entendu, parce qu'il n'y a pas d'autre fierté que la machine et la lettre. Qu'est-ce qui justifie finalement cette machine et cette lettre ? Quand l'histoire commence, on n'en sait rien. La décision a été prise dans des temps anciens, elle est en train de changer. Et donc d'ailleurs, on peut tout à fait imaginer à la fin de cette histoire une autre histoire dans laquelle une autre machine prendrait la place de la précédente, selon d'autres procédures, pour arriver à des résultats tout aussi désastreux, puisque de toute façon, tout le monde est coupable. Donc,
Je ne sais pas si Kafka connaissait un dicton espagnol du 19e pour justifier les châtiments corporels des élèves dans les écoles. C'est la lettre con sangre dentro. La lettre rentre par le sang. Et c'est exactement la description de la machine de la colonie pénitentiaire.
Par ailleurs, tout ça est à la base des processus anciens de l'Inquisition. Oui. Le châtiment s'inscrivait dans le corps de manière à ce que, d'une certaine façon, la lettre, le message divin devait y passer. Oui. Mais ce qui est très intéressant chez Kafka, c'est qu'il y a une ouverture de champ extraordinaire, puisque finalement, on est dans un monde qui est à la fois celui de l'Inquisition, dans la colonie pénitentiaire, ce court récit, et dans quelque chose qui ouvre, qui est les temps modernes. Donc il y a une. Et tout ça, comme toujours chez Kafka, dans une. Canetti parle de sa. La vélocité d'un virtuose méticuleux, mais incontestable. Et en fait, cette vélocité. Elle a un nom, c'est la concentration. Chez Kafka, après moi je ne suis pas germaniste, mais il y a des gens qui en ont merveilleusement parlé, dont Jean-Pierre Lefebvre qui a fait l'édition de la Pléiade et qui continue à la faire. Elle va bientôt sortir justement les lettres, une nouvelle édition des lettres et des journaux. Et je pense que la langue allemande a aussi participé de cette capacité à concentrer à la fois l'expérience et les contraires. Oui. Et ces contraires à l'intérieur de si peu de mots. Dont les aphorismes de Zurao, donc, qui ont donné le titre à notre petit dialogue, sont un peu là. C'est assez mystérieux, hein, ces aphorismes. Hein. Donc on ne sait pas trop. Max Brod leur avait donné pour nom Réflexion sur le péché, la souffrance, l'expérience et le vrai chemin. Un titre que jamais Kafka, n'aurait employé. Et vous savez, il les a écrits sur des feuillets, il y en a une centaine, je ne sais plus exactement, une centaine, et il y en a un par feuillet. Et on a véritablement le sentiment que c'est une des périodes les plus heureuses de sa vie, quand il est chez sa sœur à la campagne, là, et qu'il concentre des images. Et l'expérience existentielle dont on parlait, en le minimum de mots, sur des grandes pages blanches. Hein, et une phrase ou quelques phrases par page, c'est tout. Qu'est-ce qu'il en aurait fait ? On n'en sait rien.
Roberto Calasso a fait la meilleure édition de ses aphorismes parce qu'il est allé consulter les manuscrits qui sont à la Bodleian Library. Et vu comment il y avait un ordre, un sens, et il a remanié le travail de Max Brod. Donc ça a été publié en français, l'édition de Calasso. Mais c'est à ce moment-là où il était plus ou moins heureux qu'il rencontre son petit-neveu avec sa sœur. Et le petit-neveu tombe. Et Kafka lui lance un des aphorismes qui ne sont pas dans le livre des aphorismes. Il lui dit, mais tu as tombé si bien et tu t'es relevé si bien. Pour consoler l'enfant, on ne pourrait pas faire mieux. Merci Philippe.
Merci beaucoup. À toi et à vous.